Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 25. Et je profite pour saluer des frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans. Que Dieu vous bénisse. Et qu'au travers de ce message, ce matin, à l'église Paris Métropole, puissiez vraiment recevoir aussi une parole de Dieu pour vous. Alléluia. Parce que je crois que Dieu est capable de sortir de ses murs. Alléluia. Et de répondre au-delà de ses murs. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Bon, ça me rassure. David a perdu son meilleur ami dans ce texte. Et vous allez voir que ce qu'il va partager, c'est quelque chose de difficile, quelque chose de lourd. Il parle avec son cœur et il dit ceci de Samuel, chapitre 1, verset 25. « Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. » Avant de s'attarder sur ce texte, on le verra un petit peu plus tard et vous allez vite savoir là où je veux en venir. Ma prédication est suite à déjà une réflexion sur le sujet que je veux vous apporter. J'étais en train de travailler un peu là-dessus et ce qui a tout déclenché après, c'est un entretien avec un frère qui s'est retrouvé à avoir de grandes souffrances du passé. Et en échangeant avec lui, il me fait part du décès de sa maman. Et c'est toujours très difficile de perdre un être cher. Pour ceux qui ont perdu un papa, une maman, des enfants, des proches, c'est une déchirure, c'est vraiment une blessure qui est là au plus profond du cœur. Et alors que ce frère me partageait cela, il avait les larmes aux yeux, il y avait comme une pression qui était là, il était vraiment dans la douleur. Et en échangeant, je dis, mais ça fait combien de temps que tu as perdu ta maman? Il m'a dit, ça fait 25 ans. Et ça m'a interpellé. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Faites le deuil de la perte ». Fais le deuil de la perte. Je crois qu'il est important de s'arrêter quelques instants ce matin. Prédication, elle pas, voilà, il y a des messages comme ça qui sortent un petit peu du cadre et qui sont pas, je dirais, des messages qui sont des messages atypiques, disons les choses ainsi, qui sortent peut-être des sentiers battus. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter quelques instants et faire face peut-être à une certaine réalité qui est cachée. La perte, soit elle nous transforme, soit elle nous détruit. Ce sera en fonction de comment tu vas la prendre, cette perte. Comment tu vas gérer cette perte. Dieu nous parle, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, de racheter le temps. Et très souvent, ceux qui gardent une certaine perte là dans leur cœur, dans leur vie, sont, je dirais, à perdre leur temps. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a une certaine perte qui est en train de prendre place et qui est en train de nous tenir. Quelqu'un m'a dit ceci, je ne veux pas rester avec cela, je veux vite oublier, je veux vraiment laisser passer ces choses. Et d'autres personnes m'ont dit, mais moi je ne veux pas oublier. Et c'est le but de ne pas oublier. Dieu ne nous demande pas d'oublier une perte. Quand on a perdu un enfant, quand on a perdu un parent, Dieu ne nous demande pas d'oublier cela. Il y a de la valeur aux yeux de Dieu quand on a perdu quelqu'un, quand on a une souffrance au plus profond de notre cœur. La Bible prend de la valeur à cette perte. Mais là où je veux vous amener, c'est que Dieu ne veut pas que tu subisses cette perte. Et c'est là toute la différence. Dieu est là pour panser les plaies. Dieu est là pour que nous puissions vraiment, je dirais, avoir un cœur changé, un cœur transformé. Mais nous ne devons pas tomber dans le mensonge du diable. À savoir qu'il y a des frères et sœurs, des hommes et des femmes qui ont eu une perte dans leur vie, mais au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, même plus, ont une souffrance qui est là, qui a fleur de peau. Ils ont oublié la consolation de Dieu. Ils ont oublié d'avoir la main de Dieu qui vienne cicatriser cette plaie. Il y a comme une certaine souffrance qui prend place au plus profond d'eux. Et au lieu de vivre cette perte comme un témoignage vivant pour les autres, c'est une perte qui est en train de les perdre. parce qu'ils sont l'ombre d'eux-mêmes, parce qu'ils subissent au lieu de vivre, parce qu'ils essaient de sortir la tête de l'eau alors qu'ils sont là, je dirais, tenus de toutes parts. La perte a plusieurs facettes. Un déménagement, une relation amicale qui s'évanouit, parce qu'on a des saisons où on a des amis, puis à un moment donné, ils partent ou eux-mêmes disparaissent dans notre paysage. Un enfant qui quitte le foyer, il y a des parents qui peuvent peut-être témoigner de ça aujourd'hui, et c'est toujours un petit déchirement. Un changement d'église, donc quand on dit changement d'église, dit changement de pasteur, dit aussi peut-être changement de frères et sœurs, d'amis. Il y a des gens aussi qui, je vais y revenir tout à l'heure, mais qui ont souffert de la perte même d'un animal domestique. Certaines pertes n'ont pas de mots. Ou certaines pertes, c'est le décès d'un conjoint, d'un enfant. Tout à l'heure, je parlais avec notre frère Jacques Barbeau, son épouse, et ils ont quand même perdu 3 enfants. Comment vous pouvez sortir de cette affaire-là, vous ? Dites-moi. Comment on peut sortir de la perte de 3 enfants ? Comment on peut faire ? Tout ce que je vais vous apporter ce matin, c'est ce qu'eux ont fait, à un moment donné de leur vie. Et je crois que nous avons besoin de comprendre ça, parce qu'il n'y a pas de mots face même à l'infirmité. Il n'y a pas de mots face au viol, à l'abus, sous toutes ses formes. La maladie, le divorce, la perte d'un emploi, le rêve peut-être d'une vie qui vole en éclats parce qu'il y a des circonstances qui ont fait que tout s'est arrêté. Le suicide, la trahison d'un ami, d'un proche. Forcément, à un moment donné de notre vie, on perd quelque chose. La question n'est pas de savoir à quel niveau de l'échelle se situe la perte. Une perte reste toujours une perte. Ce que moi je vais perdre, qui va me toucher, ne va pas forcément vous toucher à vous, l'inverse aussi. Et la perte que tu vas avoir ne va peut-être pas forcément toucher ton voisin, mais sa perte à lui va le fracasser. Je lisais un fait divers. Quand je dis fait divers, c'est parce que c'était dans la rubrique fait divers. Une dame âgée qui s'est laissée mourir, vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a perdu son chat. Parce que 15 ans, 20 ans auparavant, elle avait perdu son mari, elle s'était rattachée à ce chat. Et puis, son mari n'était plus là, son chat a disparu, elle s'est retrouvée à l'âge de sa vie, à la fin de sa vie, à ne plus rien avoir, elle s'est sentie tellement abandonnée qu'elle s'est laissée mourir. Et combien de gens comme cela ? Et il n'y a aucun rapport entre la perte d'un chat et la perte d'un enfant, vous comprenez bien ce que je veux dire ? Mais pour elle, ça l'a fait tuer, ça l'a fait mourir. Ça l'a mis dans un tel état. Un frère avait l'habitude de concevoir la perte comme un obstacle dans sa vie et il disait, je pardonne et j'oublie. Mais vous savez, frères et sœurs, un pardon de surface réglera toujours le problème en surface. Ça laissera forcément à un moment donné des traces. Combien de chrétiens pardonnent alors que la douleur est toujours là ? J'ai parfois entendu des frères essayer de dire « Mais pourtant j'ai pardonné, mais c'est toujours là. Pourtant j'ai essayé de faire face à la situation, mais c'est toujours là. » Comprenez bien ce que je veux dire. Je vais vous expliquer pourquoi le problème est là. Admettons qu'on vous agresse et qu'on vous taille une partie de votre bras avec un couteau. Et que vous, en tant que chrétien, vous avez la volonté de pardonner la personne. C'est très bien. Sauf que le mal est encore là. Sauf que ce n'est pas encore cicatrisé. La plaie, elle est béante, elle est ouverte, elle vous fait mal, il y a une douleur qui est là, qui est tellement intense que ça vous rappelle votre agression, ça vous fait mal. Et il y a combien de frères et sœurs qui ont entamé un processus du pardon, mais qui n'ont pas réglé le problème de fond. Et c'est ça, c'est là où le Seigneur vous détenait, il faut que tu sèches, que tu guérisses tes plaies. Parce que le pardon total, complet, passe par la guérison totale et complète. Et c'est pour ça que on va parler quelques secondes là, ce matin, à confronter notre problème. Des couples perdent leurs enfants et se replongent de suite dans la vie active. Très souvent, cela amène à un deuil inachevé. parce qu'on veut oublier. En fait, c'est une plaie qui est béante. Mais on veut tellement oublier cette plaie, on veut tellement oublier de, on veut tourner cette page, on veut complètement, je dirais, faire disparaître cette douleur. Alors on se plonge dans le travail, on se plonge dans le sport, on se plonge dans des activités. Mais on ne règle pas le problème de fond. On ne règle pas la plaie. On ne règle pas ce mal. On essaye de l'oublier, de l'occulter finalement quelque part. On veut oublier quelque chose qui nous ronge. On veut fuir une blessure qui nous tient. Et c'est ça que nous avons besoin de confronter aujourd'hui. C'est ça que tu as besoin de confronter. De confronter ce qui te rend esclave, là où le Seigneur veut te rendre libre. Parce que la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Preuve que des fois, on est libre, mais pas réellement. Jacques, au chapitre 1er, verset 2, dit ceci de très intéressant. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Dur ce passage. Si vous le mettez en parallèle avec la mort de Jésus, la Bible nous dit que la mort de Lazare, Jésus pleura. Si vous le mettez en parallèle avec la crucifixion de Jésus, juste un peu avant, alors qu'il avait laissé ses disciples, qui s'est retrouvé tout seul là, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est venu le fortifier. La parole de Dieu nous dit de Jésus qu'à ce moment-là, il angoissait, il agonisait. Pire, c'est qu'au moment où il priait avec de la sueur qui sortait de son visage, et c'était comme des gouttes de sang. Imaginez l'émotion là, de Jésus. Et au même moment, un frère vient le voir. Imaginez un petit peu la scène. Un frère vient le voir, dit, tu sais Jésus, mon frère, regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que tu as subies. Quand un frère... une sœur perdue un enfant, allez sortir ce verset. Quand une fille a été abusée, allez sortir ce verset. La Bible s'adapte aux circonstances. Et nous devons nous y adapter parce que la Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. À un moment donné, il faut que tu fasses ton deuil. Les héros sont ceux qui savent pleurer, qui savent être vulnérables devant Dieu. J'ai parfois entendu au début de ma foi chrétienne, dire oh, les émotions, il ne faut pas qu'il y ait d'émotions, ça. Chrétien ne doit pas avoir d'émotions. Mais alors, Jésus, il avait tout faux, alors. Dites-moi, Jésus avait tout faux. Jésus pleura devant Lazare. À un moment donné, il s'est retrouvé angoissé, agonisant. L'ange était obligé de venir le fortifier. Mais ça, c'est tout le monde. On n'est pas des robots. Tu ne peux pas occulter quelque chose que tu dois confronter. Jésus a été le parfait exemple dans ce passage parce qu'il a voulu nous montrer qu'il était comme nous, avec nos douleurs, avec nos pertes. Il y a comme quelque chose que tu as besoin de confronter peut-être ce matin, besoin vraiment de te retrouver face à cette réalité, besoin de pleurer, besoin de lâcher prise. Besoin d'abandonner finalement tout ce que tu contiens, tout ce que tu as contenu jusqu'à aujourd'hui. J'ai connu quelqu'un dans une sépulture, ce frère gardait comme ça, il serrait les dents, il gardait pour ne pas pleurer, il était le seul à ne pas pleurer. J'ai dit, lui, il ne va pas tenir longtemps s'il continue comme ça. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de libérer. Comment tu vas le libérer? En fuyant ta famille, en allant faire du sport, en allant t'éclater de côté et de l'autre, peut-être en t'abandonnant toutes sortes de vices et de passions. On va y venir dans quelques instants. Un pasteur qui a vécu plusieurs pertes dans sa vie a dit ceci, « La mesure avec laquelle j'apprends à faire le deuil de mes pertes est directement proportionnelle à la profondeur et à la qualité de ma relation avec Dieu et à la compassion que je peux témoigner à autrui. » C'est beau, hein? Je répète. Vous pourrez voir après la vidéo, parce qu'on filme. La mesure avec laquelle j'apprends à faire le deuil de mes pertes est directement proportionnelle à la profondeur et à la qualité de ma relation avec Dieu et à la compassion que je peux témoigner à autrui. Dieu te demande. Mon frère, ce matin, Dieu te demande, mon frère, ma sœur, de faire le deuil de ta perte, de confronter cette perte, d'accepter cette perte, de la remettre entre les mains du Père. Le problème, c'est que souvent, quand on refuse, je dirais, de faire le deuil, c'est parce qu'on retient cela, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On a demandé à Dieu des explications, on n'a pas les réponses. Écoutez, je vais vous dire une chose, on n'aura pas réponse à tout. J'aimerais tellement que le Seigneur me réponde à certaines de mes questions. Mais Dieu est resté en silence devant ça. Pourquoi ? Parce que je me soumets à lui. Parce qu'on se soumet à lui. On ne peut pas tout comprendre, frères et sœurs. Il y aura des choses qu'on comprendra peut-être même plus tard. Certaines situations qui vont t'amener à peut-être à t'interpeller, dire « Ah ouais, je comprends mieux ». Mais peut-être que là, Dieu va te parler peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Peu importe. L'essentiel, c'est que toi, tu te soumettes et que tu lâches prise. Tu ne peux pas en vouloir à Dieu, confronter Dieu par rapport à ça, là où il te dit « Fais le deuil, lâche prise ». On ne comprend pas tout de Dieu. On n'arrive pas à tout saisir du maître. Mais il y a tellement de gens, face à cela, ils rentrent dans leur grotte. Ils s'enferment dans leur grotte. Alors qu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, nous avons parlé d'Élie et l'Éternel vient et dit « Élie, qu'est-ce que tu fais dans ta grotte ? Sors de là et continue la route. » Et Dieu voulait te dire ce matin « Sors de ta grotte. Sors de ton silence. Sors de ton mutisme. » Parce que ce que tu es en train de faire, c'est tu te fais du mal à toi-même, mais tu fais du mal à ceux qui t'entourent. Le fait de ne pas confronter ta perte, de lâcher prise, d'abandonner, de te soumettre à Dieu sans tout comprendre forcément, parce qu'on reste des humains, ben tu es en train de mettre des barrières et des obstacles. Tu vas aimer ton conjoint, mais mal. Tu vas aimer tes enfants, mais mal. Avec ta souffrance, avec tes interrogations, avec tes doutes, avec tes craintes, avec tes peurs, avec ta douleur. Et ce n'est pas possible. C'est ce qu'a fait David. La Bible nous dit que David était selon le cœur de Dieu. Et vous savez que, beaucoup ne le savent pas, ça, mais beaucoup ignorent que cette caractéristique est liée à la manière dont il a confronté la perte et la déception. C'est pour ça qu'il était selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il était vainqueur face aux Philistins et autres, et qu'il était roi, non, pas du tout. Il a été selon le cœur de Dieu parce qu'il a su faire face à la perte et au deuil, confrontation à la déception. Je ne vais pas vous faire toute la liste de ces problèmes, mais juste quelques-uns que je vais révéler comme cela. Il a été rejeté par ses frères. Quelle douleur. Il a été rejeté par son père. Alors là, c'est. Alors que Samuel est rentré dans la maison voir son père, Isaïe, et dit écoute, je cherche un roi, et Dieu m'a montré que c'était ici. Ben écoute, tous mes fils sont là, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont formidables, sauf qu'il en manquait un, et c'était lui, le vrai, et le bon, et l'authentique roi. Disqualifié. Imagine dans le cœur de ce jeune, ne pas se sentir aimé. Et là, peut-être je parle à certains d'entre vous qui avaient été disqualifiés dans la maison du Père. Et ça a renforcé la position des frères et des sœurs qui vous ont aussi après écrasé, forcément, parce que le Père, s'il ne donne pas l'exemple, je ne vous dis pas la suite. Les émotions que ça crée, les difficultés que ça crée, les luttes intérieures, le manque d'estime de soi, que ça nous montre, et ça nous donne l'impression qu'on est des bons en rien. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre ? Qui je suis finalement ? À quoi bon ? Je comprends que certains ont des pensées de suicide après ça. Se retrouver confronté à cette douleur, à ce mal. Il a été trahi par son bras droit. Waouh ! Alors qu'il était en train de se confier à ce bras droit, à cet homme, et il parlait de stratégie de guerre, et puis par derrière lui, parler dans son dos et dévoiler toutes les stratégies. Il a été pourchassé par Saül pendant 10 ans, David. Et la parole de Dieu nous dit qu'après 40 ans de règne, bien sûr, Saül est mort. Et là, il y a quelque chose de très particulier qui s'est passé, c'est que David ne s'est pas précipité sur le trône. Il aurait pu le faire, hein. Il aurait pu dire, bon, avec tout ce que j'ai enduré dans mon passé, dans mon enfance, et les douleurs, les problèmes, les rejets, tout ça, enfin aujourd'hui j'existe. Enfin, aujourd'hui, je vais montrer à mon père, à mes frères qui je suis réellement. Il n'a pas essayé de se prouver à lui-même ou de prouver au monde entier qui il était. Ça ne servait à rien. Ce n'était pas là le problème pour lui. Il y avait un problème qui était plus important que tout le reste. Et on le retrouve, on en a fait la lecture tout à l'heure, quand il dit ceci, il écrit un poème, une complainte émouvante. Il dit, mais comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Ton héros est tombé un jour. Et David, il dit la même chose, comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Et là, il est accablé par le chagrin. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une telle douleur, une telle peine. David s'adresse même à Jonathan alors qu'il est mort. Il est mort et il dit à Jonathan, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Jonathan, c'est à cause de toi que je souffre à l'intérieur. Il y avait une douleur qui était là tellement vive qu'il s'adresse directement à ce mort, à cet ami et qui vient de perdre et dit, là maintenant, si j'ai mal, c'est à cause de toi. Et il ne peut rien, le pauvre, il s'est fait tuer. Il a donné l'ordre que ce chant funèbre soit enseigné au peuple de partout, que ça se sache. Il a pris du temps à écrire des psaumes. On va y venir dans quelques instants. David sait très bien que le chagrin, la peine, le deuil est indispensable à la maturité spirituelle. Il ne pouvait pas monter sur le trône sans avoir réglé ce problème de douleur. Tu ne pourras jamais rentrer dans ta destinée, dans ton futur, avec la douleur, avec le mal-être, avec ce sentiment de blessure et de frustration en toi. Ce n'est pas possible. Ou tu rentreras, mais mal. Et t'entraîneras avec toi ton conjoint, tes enfants, mais dans une certaine douleur. Parce que forcément, quelque part, il y a des traces, il y a des marques que tu gardes en toi, mais qui se répandent comme un parfum qui n'est pas bon à respirer. Et Dieu te dit, lâche prise. Dieu sait très bien que c'est par là que tu dois passer. David, c'est combien il est important de mettre notre vie en mode pause et mesurer la perte. Arrête-toi quelques instants. Assis-toi maintenant. Réfléchis et réalise la perte que tu as eue dans ta vie avec cette maman que tu as perdue, avec cet enfant, peut-être plusieurs enfants, peut-être ton papa. Essaie de réaliser ce que cela, je dirais, t'a amené aujourd'hui. Et lâche prise. Abandonne-toi. Prends du temps à accepter la perte. Parce que tu as accepté Christ dans ta vie. Et que Dieu sait exactement ce que tu es en train de vivre, mais Dieu a quelque chose de plus grand, de glorieux pour toi. Et le Seigneur te demande vraiment de lâcher prise afin que tu puisses être un instrument entre les mains du Maître. Je rendais ce témoignage tout à l'heure au premier culte et un frère est venu me voir alors qu'on était en échange à l'école destinée parce qu'il y a des projets qui se font là-bas avec des chrétiens qui font des projets d'avenir, et il me parlait, il me disait, tu vois Didier, je voudrais partager maintenant mon expérience. Il est passé par une dépression que j'ai rarement vue. Et pourtant, j'en ai vu des dépressions dans les entretiens pastoraux, rencontrer des frères et sœurs qui ont vraiment, 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 vraiment été atteints. Mais là, un cas comme ça, je n'ai jamais vu. Et ça a affecté sa vie personnelle, forcément, mais ça a affecté aussi la vie de sa femme. Il y a des répercussions sur son foyer, forcément. On subit forcément le mal de l'autre. Qu'il soit un mal très lourd ou très faible, on subit forcément quelque chose. Et elle a pris plein la figure aussi, elle a pris ça comme quelque chose, comme je dirais une avalanche qui est venue sur sa vie, et puis on les a accompagnés avec mon épouse. On les a aidés, et puis Dieu a fait grâce, et la puissance de Dieu a commencé à restaurer son cœur parce qu'il a confronté le problème. Il a analysé la perte, il a vu exactement d'où venait sa situation. Ça venait de plusieurs endroits, de plusieurs facteurs, je dirais, éléments toxiques qui sont venus, je dirais, vraiment infecter sa vie. Et Dieu a fait grâce sur son cœur, il est ressorti de là de manière incroyable, métamorphosé. Aujourd'hui, il est rayonnant, il est là, un grand sourire sur son cœur, ça me fait plaisir de le voir. Je prends dans les bras mon frère, je suis fier de mon Dieu. Vous savez ce qu'il m'a dit récemment, la semaine dernière, il me dit, Didier, j'ai envie de rendre ce témoignage de qui j'étais avant, comment j'étais fracassé par la dépression qui était latente, qui durait depuis des années. Elle ne se voyait pas, comme vous et moi, on peut traverser, on peut croiser quelqu'un, mais quelque part, il y a un foyer infecté. Et à un moment donné, ça a pété. Et là, il est sorti, il m'a dit, Je vois plein de collègues au boulot on sent qu'il y a la dépression. Il y en a deux déjà qui sont pleins de dépression. Faudrait faire une réunion avec eux, partager avec mon épouse et leur apporter notre témoignage, notre partage, leur dire vraiment comment Dieu a posé sa main sur notre vie. Parce qu'à un moment donné, il a confronté le problème. Parce qu'à un moment donné, il a confronté sa situation. Nous acquérons toujours de la profondeur en prenant le temps de faire le deuil de notre perte avant de poursuivre notre route. Alors confronte. Confronte ton problème. David et les fils de Corée et d'autres ont pris le temps d'écrire des psaumes. Vous les avez lus, vous les lisez, je pense qu'ils vous font du bien. Il y en a 150. Et dans ces 150 psaumes, vous avez des psaumes d'adoration, de reconnaissance, de sagesse, de repentance, parfois de doute. Mais vous savez que sur les 150 psaumes, plus de la moitié des psaumes nous parlent de lamentation. Et c'est pour ça qu'ils ont autant de succès, ces psaumes. Parce que ça nous parle. Ça nous montre que ces hommes, ces femmes, ces gens, c'était des gens comme nous. Avec nos luttes, nos conflits, nos problèmes, nos désarrois, notre ras-le-bol. Et parfois, il y a des mots qui sont durs. Des fois, même certains s'adressent à Dieu, mais avec certaine véhémence. Parce qu'il y a une telle douleur. Et c'est ça qui est très intéressant. Même Jérémie en a fait un livre. Les Jérémiades. Pourquoi ? Parce que c'est son cœur malade qui parle. Parce que ce sont ses souffrances qui parlent. Mais on ne peut pas rester comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment déposer toute chose. Et je voudrais vraiment vous attirer votre attention aujourd'hui de prêter vraiment aussi attention à la douleur. La culture ambiante nous pousse à ignorer la douleur. Ne fais pas un deuil expéditif pour tourner la page. Prends ton temps. Pleure un bon coup. Crie si tu dois crier. Libère ce qui est là, le poids qui est là. Parce que tu n'en peux plus. Ce n'est pas une façade qui va te construire, te reconstruire. C'est la profondeur. Ce n'est pas la superficialité qui va faire que ça va s'arranger. Non, ça ne va pas quand au fond de notre cœur, ça va mal. Ne fais pas un deuil superficiel. Creuse. Quand le deuil est expéditif, eh bien, ça ressurgit plus tard, en crise plus profonde. Et je vais vous dire une chose, la crise est plus profonde, pourquoi ? Parce que quand on ne règle pas le deuil à chaud, à froid, il est pire. Quand on ne règle pas la perte à chaud, plus tard, c'est pire. Et on voit des fois, parfois, des couples où un des deux a burn-out total. On ne comprend pas, au boulot, ça marche bien, à la maison, c'est la qualité, vraiment, ils s'aiment, et les enfants sont là, l'église, c'est au top, amen, alléluia, je comprends pas, mais quand on commence à creuser, on s'aperçoit que ce conjoint a laissé quelque chose il y a plusieurs années de cela. Comme une cocotte minute, il a gardé dans son cœur, il a contenu en disant, ça passera, on verra, de toute façon, avec le temps, ça va s'apaiser, sauf qu'à un moment donné de sa vie, ça a pété. Parce que ce que tu ne laisses pas aujourd'hui, tu le retrouveras demain. Pourquoi ça ? Parce que le diable, à un moment donné, c'est lui qui va te confronter avec ça. On ne peut pas lutter contre une émotion, sinon on lutte contre soi-même. Pour ça que le Seigneur te dit lâche. Confronte. Et quand tu auras bien confronté, quand tu auras bien lâché prise, moi, Dieu, je vais venir te consoler. Voilà la parole du Seigneur ce matin. Seigneur, il est là pour te consoler. Ce frère qui, pendant 25 ans, a souffert de la perte de sa maman, avait quelque part finalement oublié, ou il a mis ça de côté, il semblait tellement évident. Il avait peur qu'avec la consolation, il est plus de l'affection à l'égard de sa mère, ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, il garde toujours autant d'affection pour sa maman. Il a toujours autant d'amour pour sa maman. Mais il ne subit pas la perte. C'est là toute la différence. Que tu n'aies plus à subir la perte. Parce que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Et Dieu te demande cette liberté en Christ. c'est-à-dire de savoir faire face à cette situation pour être un instrument de Dieu dans ton futur. On a vu combien de témoignages de frères et sœurs qui aujourd'hui peuvent vraiment lever la tête et vraiment rendre, et parler de Dieu, de ce que le Seigneur a pu les reconstruire. Combien de frères, de sœurs, ont été abusés dans leur passé, que Dieu a reconstruit, que Dieu a guéri, a restauré, parce qu'ils ont confronté cela. Ils ont confronté cette perte et Dieu a posé sa main de manière miraculeuse. Et aujourd'hui, ce sont des véritables témoins auprès des femmes abusées. Quand vous voyez les statistiques, ça fait peur dans le dos. Franchement, ça fait peur. Et le Seigneur est capable de guérir les cœurs. Notre culture banalise la tragédie et les pertes. Quand vous regardez aux informations, on parle de scènes de crimes, de guerres, de famines, de meurtres. Et puis, sans transition, la météo. Ma foi. OK. Non, c'est pas vrai? Dernièrement, sur France 2, je regardais les infos. Et puis, une info qui a duré 3-4 minutes, ce qui est énorme hein, quand vous avez plusieurs reportages et qu'on prend 3-4 minutes pour un reportage sur les nouvelles tendances à l'électroménager. L'électroménager high-tech, moderne, avec plein de flashs de partout. Ça, voilà, ça en met plein les yeux. Et puis, juste après ce reportage de 4-5 minutes, et puis après, il est venu un journaliste qui a commenté ce reportage, en plus, qui a apporté une plus-value à son reportage à elle. Il y a eu une brève, et cette brève, c'est deux soldats français tués au Mali. On banalise. Et ce qu'on banalise dans la société, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'Église. Vite, on tourne la page. On ne va pas confronter, ça fait mal. On ne va pas toucher là où ça fait mal. Et pourtant, le Seigneur ne te demande pas d'enfouir ton problème, il te demande de le sortir. Il ne te demande pas de le fuir, il te demande de le confronter pour que ça soit comme du pus qui sorte, qui s'infecte à l'intérieur. Ça ne se voit pas comme ça à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça s'infecte. Refuser la douleur, c'est prendre un grand risque, frères et sœurs. Un risque de dépression, c'est-à-dire des colères retournées contre soi. Un risque de burn-out, j'en parlais il y a quelques instants. Un risque de se réfugier derrière la télévision. Et je connais des frères et sœurs qui sont toute la journée derrière la télévision. À fuir, on ne sait pas trop quoi, à chercher toutes sortes de reportages. Ils ne dorment pas la nuit, ils se réveillent, puis on se réfugie derrière les écrans. Un risque de prendre des médicaments ou de l'alcool pour oublier la souffrance. Et par cela, on devient aussi accro à la nourriture. On devient boulimique, avec toutes les répercussions que cela a après sur notre vie, parce qu'on mange devant en plus la télévision, on prend du poids, on se regarde, on se trouve laid, on n'est plus comme on était auparavant, on perd notre estime de soi, notre confiance en soi, on se déteste, on s'avilit, on s'écrase, et je ne vous dis pas la suite. Ça a des conséquences sur notre propre vie spirituelle, sur notre identité. Un risque même d'endettement, d'achat compulsif, parce qu'on est tellement mal qu'on cherche à compenser ce mal par toutes sortes d'addictions. Alors on va dépenser. On gagne 100 euros, mais on va en dépenser 300, c'est pas grave. Il y a combien de frères et sœurs qui se retrouvent piégés, endetté à cause de tout ça, parce que finalement, on s'aperçoit que certaines dettes sont dues à un passé non réglé. Un risque de relations malsaines. Et la parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Risque que le sport devienne aussi ton addiction. On va fuir. On va fuir par le sport. Déjà, ça fait du bien le sport. J'en sais quelque chose, j'aime le vélo. Mais que ça en devienne une addiction, pas question. Il y a des gens qui vont fuir dans le sport, qui vont fuir dans l'effort, qui vont se vider peut-être la tête, le cœur, mais ça va se remplir à nouveau. Parce que ton problème, il est là. Ton problème, tu le déplaces même dans le sport. Tant que tu n'as pas réglé ton problème, tu le déplaces, mais toujours là. Et alors, tu vas l'éteindre un temps parce que ton effort va prendre le dessus. Tu vas plus y penser, tu vas t'évader quelques instants. Mais après, quand tu vas te retrouver dans le silence de ta chambre, dans ton lit, tu vas t'en rappeler de ce problème. Il y a des chrétiens qui aussi se sont réfugiés dans leur service dans l'église, comme cela. Et ils passent plus de temps à l'église que chez eux à la maison. Parce qu'il y a une fuite en avant. Et c'est là où on perd du temps. On ne rachète pas le temps comme cela, on en perd. Et le Seigneur voudrait que tu le rachètes. Et voulait te dire ce matin, tu vois, si tu confrontes ton problème, ta perte, qu'aujourd'hui tu déposes les valises et que tu arrêtes de fuir cette situation qui pourrit ta vie, mais qui pourrit aussi la relation avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes frères et sœurs. Si tu es capable de vraiment, je dirais, faire bas les masques, eh bien moi je vais venir te consoler. Je vais venir te restaurer. Je vais venir panser les plaies. Il y a une sépulture qui m'a particulièrement bousculé. Pour ceux qui le connaissent, s'appelle Franck et Bernadette. Bernadette a perdu son bébé à naissance. Vous savez, vous, en tant que pasteur, j'ai pris de suite la voiture quand Franck m'a appelé. Et j'allais à l'hôpital pour les rencontrer. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire là ? Quels sont les mots ? Il n'y a pas de mots. On est arrivé, je suis arrivé. Puis on a pleuré. On a pleuré. Il n'y avait que ça à faire. Et elle a pleuré. Et elle a pleuré. Tous les deux, ce sont un couple de prières. C'est des guerriers dans la prière. Des intercesseurs dans la prière. Ils sont au taquet au niveau de la communion avec Dieu. Mais ils ont fait une chose incroyable, extraordinaire. C'est qu'ils se sont mis à pleurer, à lâcher prise. Ils ont confronté le problème. C'est une réalité. On ne va pas dire « Alléluia, Dieu est bon, Dieu va me garder, on va rester droit, comme un i. Amen, je vais montrer aux frères et sœurs que je suis fort. » Non, c'est Dieu qui est fort. Non, ils ont été vulnérables. Ils ont été authentiques. Ils ont été vrais. Et je vais vous dire, en faisant ça, waouh, là après, on a vu la force de Dieu. Je peux vous dire qu'on a vu la force de Dieu. On a vu la puissance de Dieu agir. Même à cette sépulture, vous avez un petit cercueil comme ça. Il n'y a pas de mots. Mais le Seigneur a fait une œuvre. Mais il a fait une œuvre incroyable. De puissance de restauration. Puissance de consolation. Ça ne leur a pas enlevé la tristesse d'avoir perdu un enfant. Ça ne leur a pas enlevé, je dirais, vraiment toutes ces émotions, mais ça leur a enlevé ce poids de subir ça. La chape qui était là, qui voulait l'écraser, qui voulait les détruire, est sortie, a disparu. Elle a lâché prise. Elle n'a pas pu résister, cette chape, parce qu'ils étaient libres en Christ. Et si tu es libre en Christ, fais-en de même ce matin. Libère-toi de cette chape. Ne permets pas à cette chape de t'écraser davantage. Lâche prise. Vraiment que le Seigneur fasse cette œuvre extraordinaire sur ta vie. Il faut prendre le temps de perdre. J'irai cette perte pour ne pas perdre son temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as trop perdu de temps avec ça. Tu pensais que ça allait s'arranger dans le temps, mais c'est faux, c'est pire. C'est pire. Et le Seigneur voudrait faire cette œuvre sur ta vie. Permettez qu'on courbe nos fronts quelques instants. Cela consiste à marquer une pause, à prêter attention aux pertes subies dans le passé, ou peut-être même le présent, et de laisser le Saint-Esprit de Dieu sonder les cœurs, toucher ta vie, te pénétrer, afin qu'il puisse faire une œuvre de restauration, une œuvre de consolation. Nous pensons souvent que la pause est une parenthèse, c'est faux. Dieu continue d'agir, mais nous ne le voyons pas. Dieu continue d'agir, mais toi fais cette parenthèse. Permets que le Seigneur fasse cette œuvre en toi. Permets que cette perte ne te perde pas. Et pour cela, laisse le Saint-Esprit agir sur ta vie. Plusieurs d'entre nous pourraient rendre ce témoignage comment Dieu les a restaurés, les a consolés, les a bénis, les a touchés, les a vraiment enroulés dans sa présence, dans sa grâce. Parce qu'ils n'ont pas voulu subir, parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser écraser, parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser démonter. Seigneur, il est là ce matin. Il te tend la main. Seigneur te dit, ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas la relation avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes amis, avec ce qui est là, qui te blesse. Parfois, tu ne comprends pas les colères, ton impulsivité. Et tu sais que ça t'agace, et tu ne comprends pas, tu cherches à savoir pourquoi, mais tu comprends mieux maintenant ce qui arrive en toi, sur ton cœur. Et le Seigneur voudrait que tu te lèves et que tu saisisses le bord du vêtement de Jésus pour être guéri. Que tu saisisses la main tendue du Père pour que tu puisses être complètement, complètement vulnérable entre ses mains. Pierre, quand il a marché sur les eaux, il avait le choix déjà de rester dans la barque, mais quand il est sorti, il avait le choix de retourner en arrière ou de tendre la main au Maître. Il a fait le bon choix. Il a pointé, ôté. Alors qu'on va on va se laisser conduire par ce chant. Et si dans ton cœur, Dieu te parle, et si Dieu t'a parlé au travers de ce message, alors je t'invite à te lever à ta place. Et nous allons ensemble, nous allons prier. L'Église va prier aussi avec toi, et nous allons prier pour toi. Et tu vas prendre position cet après-midi, tu vas conforter et confronter de cette perte. Afin qu'elle ne soit pas là pour que tu la subisses à nouveau, mais que vraiment tu puisses être dégagé de cela, que tu fasses ce deuil afin de pouvoir rentrer dans ton futur, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée, afin que tu puisses voir ta destinée, ton futur, différent de ce que tu le vois aujourd'hui, avec ses blessures, avec peut-être ce cœur vraiment complètement écrasé par la douleur, complètement déformé par les situations du passé, que le Seigneur ce matin fasse cette œuvre puissante sur ta vie. Alors là où tu es, lève-toi et nous allons prier ensemble. Alléluia. Jésus.
Me livre totalement.